18h-20h,
votre grand journal du soir,
Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour ces deux heures d'infos à la une de l'actualité ce soir, un long week-end du 14 juillet, donc le début des grandes vacances pour nombre d'entre vous. La cohue dans les gares et les premiers vacanciers sur les côtes. Nous serons Gare de Lyon et en Bretagne dans votre journal Sébastien Crêpe. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
18h20 des vacances en France, un budget réduit et du tourisme vert, voilà pour la tendance. L'industrie du tourisme est bien malade, nous dira Michel Durieux, le directeur du tourisme de Nouvelle-Aquitaine et mon invité dans 20 minutes. 18h30, les grandes voix, Gérald Darmanin en guerre contre l'islam politique et les Républicains, est-ce qu'ils ont encore des idées? Ce soir, Judith Ventrobe et Marie-Ève Malouine et vos questions bien sûr 39-21. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
C'est votre grand journal du soir pour écouter ensemble le monde changer et c'est jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Il y avait la peur des annulations de vols, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est plus orienté du coup vers la France.
On voulait être sûr de pouvoir passer quelques jours en bord de mer, quoi.
Des maillots de bain et des masques dans les valises. C'est parti pour un week-end de grand départ sur les routes chargées et dans des trains désinfectés.
Nous allons Gare de Lyon dans quelques secondes et en Normandie où les professionnels ont plutôt le sourire à la veille de ce pont du 14 juillet.
Une fraude massive au chômage partiel, plus d'1,5 million d'euros envolés. On vous raconte ce soir cette escroquerie montée par un réseau international.
La bataille d'experts relancée dans l'affaire Adama Traoré, la justice confie le dossier à des médecins belges.
L'avocat des gendarmes espère que cela clarifiera enfin les circonstances de sa mort.
La mission demande notamment d'investiguer l'hypothèse du coup de chaleur qui serait à l'origine exclusive du décès d'Adama Traoré.
Dans ce journal aussi, la colère du monde chrétien, la Turquie d'Erdogan annonce la transformation de Sainte-Sophie en mosquée.
Et puis les affiches de la Ligue des Champions, le PSG affrontera en quart
l'Atalanta.
L'Atalanta d'Erdogan, pardon.
Ça va être un match très serré et très dur, mais nous sommes là pour gagner.
Voilà, l'Atalanta, Berga, mais pour Lyon, ça s'annonce bien plus corsé. Ce sera soit Manchester City, soit le Real. La Bourse de Paris termine la semaine en hausse de 1% à 4 970 points.
Plus facile à dire, la tendance météo, Anissa.
Avec des orages actuellement sur les Pyrénées et la région Rhône-Alpes. Soyez prudents en Drôme, en Isère et en Ardèche pour cette fin de journée. Et bonne nouvelle, il revient, qui l'anticyclone, pour nous apporter un très beau week-end d'été. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Thierry Dagiral et Sébastien Krebs.
Le temps des vacances, vous êtes très nombreux en voiture ce soir. Trafic particulièrement chargé au départ de l'Île-de-France. Soirée classée rouge, ce sera le cas demain dans tout le pays. Plus de départs en voiture, plus de départs dans l'Hexagone en cette année particulière où le masque reste incontournable et les gestes barrières obligatoires, notamment dans les trains. Hélène Terzian, vous êtes à Paris, Gare de Lyon. Cela ne gâche rien, j'espère, à l'excitation du départ.
À ça, je vous le confirme ici, les passagers et futurs vacanciers donc portent certes tous leurs masques. Ils ont le gel hydroalcoolique à portée de main, mais ils n'ont pas oublié dans leur sac chapeau, lunettes de soleil et crème solaire. Même si cette année, comme pour Sarah et son amie, eh bien les vacances se font dans l'Hexagone.
On n'a pas l'habitude de partir en France. Habituellement, on est plutôt amené à partir en Europe ou ailleurs.
Il y avait la peur des annulations de vols, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est plus orienté du coup vers la France.
On voulait être sûr de pouvoir passer quelques jours en bord de mer, quoi. Pas qu'on nous annule nos billets et qu'on puisse pas partir. Même si c'est que quelques jours, c'était important de pouvoir changer d'air.
C'est aussi l'absence de visibilité au moment de réserver les billets il y a quelques semaines qui a poussé Marie à choisir Aix-en-Provence comme destination avec ses enfants, un lieu de villégiature pratique où elle a même prévu de télétravailler.
Bah, vu les circonstances, c'est plus simple. Voilà, et au moins on est prêt, on est proche. Alors moi aussi pour le travail, évidemment, si je me retrouvais à l'étranger puis bloqué pour une raison X, Y, Z et que je ne puisse pas revenir, ce serait un sujet.
Des vacanciers qui, pour le moment, pensent surtout à enfin arriver sur leur lieu de vacances. Mais il va falloir, avant cela, porter le masque plusieurs heures dans le train.
Bien sûr, merci beaucoup Hélène Terzian, Gare de Lyon, direction le sud, mais également les côtes de l'Atlantique et de la Manche. Beaucoup de monde attendu en Normandie également pour ce pont du 14 juillet.
Avec des enjeux économiques très importants pour les professionnels qui, semble-t-il, ont retrouvé le sourire et l'optimisme. Écoutez Emmanuel Guillet, il loue des bateaux et des vélos à Trouville.
Chez nous, en ce moment, c'est ciel tout bleu avec quelques nuages derrière. C'est 20 degrés, temps idéal pour travailler. Beaucoup de monde. Là, ça a pris plus qu'à la normale puisqu'on est au-dessus des chiffres de l'année dernière. Essentiellement, c'est que du français et quelques belges, mais très, très peu de belges. Moi, je revois une clientèle qu'on a été plus habitué à voir
depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire nos vrais clients à l'année. Avant, on venait pas juillet-août. Là, la première dizaine de juillet, on retrouve nos clients habituels, familiales. Le restaurant le plus proche qui est à côté de moi, le fait plus de monde que l'année dernière. Hein. Ils sont contents. C'est une bonne surprise, c'est une bonne surprise.
Voilà la bonne surprise de ce loueur de vélo à Trouville, joint par Jian Bergaoui.
Et on va parler de cette saison touristique qui commence avec mon invité juste après le journal, Michel Durieux, le directeur général du tourisme de Nouvelle-Aquitaine à 18h20.
Un été où le secteur aérien est particulièrement affecté. Nouvelle manifestation. Aujourd'hui, plus d'une centaine de salariés de la compagnie régionale Hop se sont rassemblés devant leur centre de maintenance à Clermont-Ferrand, site menacé par le plan social déclenché chez Air France.
On en vient à présent à cette gigantesque fraude au chômage partiel. Au moins 1 700 000 euros d'argent public s'est envolé.
Bonsoir Alain Co. On parle d'un réseau international. Comment ces escrocs s'y sont-ils pris pour détourner l'argent ?
Alors c'est tout simple. Hein. Depuis l'étranger, ils se sont fait passer pour de vraies entreprises françaises, des entreprises qui n'avaient pas fait de demande de chômage partiel. Ils ont utilisé le nom de ces entreprises et leur numéro d'identification SIRET pour remplir des télédéclarations. Mais bien évidemment, ils ont donné à l'administration un autre numéro de compte bancaire. La plupart du temps, l'argent ainsi récolté est très vite reparti à l'étranger. Sur l'ensemble du territoire, les enquêteurs ont d'ores et déjà repéré 1740 opérations frauduleuses, plus d'un millier de sociétés dont l'identité a été usurpée, 1 700 000 euros versés indûment, vous l'avez dit, mais plus de 6 millions bloqués in extremis. Dans la seule région Occitanie, on dénombre plus de 160 entreprises qui ont été utilisées à leur insu pour cette escroquerie. Une escroquerie de haut vol qui en rappelle d'autres, comme les fraudes à la TVA et à la taxe carbone. Toutes les enquêtes ouvertes jusqu'alors à Toulouse et à Limoges pour escroquerie et blanchiment ont été centralisées à Paris. Et les enquêtes sont menées désormais par les policiers de l'Office central de répression de la grande délinquance financière et les gendarmes de l'Office central contre le travail illégal.
Alain Acco du service police-justice d'Europe 1.
Nouvel appel à la vigilance sur le front de l'épidémie. Les données publiées aujourd'hui par Santé publique France confirment que le virus progresse.
Il progresse lentement, mais il progresse. Le taux de contamination, le R0, est pour la première fois repassé au-dessus de 1. Ça veut dire que chaque malade transmet le virus à au moins une personne en moyenne. D'où ce message martelé encore aujourd'hui par le Premier ministre Jean Castex.
J'ai demandé à tous les acteurs, je vois que c'est le cas de certains d'entre vous, de porter de plus en plus de masques pour nous prémunir au mieux d'une éventuelle deuxième vague de l'épidémie sur laquelle je n'ai pas d'informations ni officielles ni cachées, mais la meilleure façon de la combattre, c'est de la prévenir.
Voilà, le Premier ministre qui veut maintenant montrer l'exemple hein, après quelques écarts plutôt remarqués lors des passations de pouvoir.
Propos recueillis par Jean-Gabriel Bourgeois à Dijon où Jean Castex a rendu visite aux policiers après les violents affrontements du mois dernier.
Avec un message de fermeté, le gouvernement ne tolérera jamais ce genre de comportement, dit-il en promettant son soutien aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, un 9e suspect a été mis en examen et écroué pour ses violences dans la cité des Grésilles à Dijon.
Autre dossier judiciaire, Sébastien, l'affaire Adama Traoré connaît un nouvel épisode. Une énième expertise médicale va être menée.
Oui, Adama Traoré, mort en 2016 après son interpellation par des gendarmes et qui est érigé aujourd'hui par ses défenseurs comme le symbole des violences policières. Mais entre expertise et contre-expertise, c'est une bataille qui dure depuis des années. À Salomé le Grand, la justice va cette fois faire appel à des médecins belges.
Et oui, décision prise après l'audition la semaine dernière de deux témoins importants qui ont vu Adama Traoré juste avant son interpellation, mais qui n'ont finalement pas permis de faire pencher la balance de façon déterminante. Les juges d'instruction ont donc demandé à ces experts belges d'étudier différentes causes possibles de la mort de ce jeune homme. Celle de l'asphyxie positionnelle liée à l'intervention des gendarmes qui l'ont plaqué au sol à Troyes, mais aussi l'hypothèse de l'hyperthermie maligne, c'est-à-dire un coup de chaud, un décès lié à l'effort physique intense fourni par Adama Traoré qui a couru pour échapper aux gendarmes un jour de canicule. Pour l'instant, les deux autopsies et les quatre expertises judiciaires ont mis en avant des antécédents médicaux et cardiaques et génétiques, mais la famille s'appuie sur deux expertises médicales privées pour contester ces conclusions. L'avocat des Traoré a d'ores et déjà fustigé, je cite, « l'incompétence de ces médecins belges qui vont maintenant se pencher sur le dossier et qui doivent rendre leurs conclusions en janvier prochain.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. C'est un ultimatum inédit que le Conseil d'État a prononcé aujourd'hui. La France a 6 mois pour agir, pour prendre des mesures et réduire la pollution dans plusieurs villes comme Paris, Lyon, Marseille ou Grenoble. Et cela sous peine d'une astreinte. Une astreinte record, 10 millions d'euros par semestre de retard et qui pourrait être versée à des ONG. Ce serait du jamais vu. On va y revenir en détail dans le journal de 19h.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Thierry Dagiral.
À suivre dans votre journal de 18h, un symbole à Istanbul, la Turquie d'Erdogan lance la transformation de la basilique Sainte-Sophie en mosquée.
Et puis le tirage au sort de la phase finale de la Ligue des Champions, abordable à première vue en tout cas pour le PSG, bien plus corsé pour les Lyonnais.
Europe 1.
Europe 1. 18h11 sur Europe 1, votre grand journal du soir. La suite avec Sébastien Krebs et Thierry Dagiral.
Et on en vient à présent à la colère du monde chrétien face à cette décision du président turc Erdogan.
Il a promis de transformer la basilique Sainte-Sophie au lieu de la capitale Istanbul en mosquée et la justice vient de lui ouvrir la voie. Première étape annoncée aujourd'hui, Jean-Jacques Héry, les prières musulmanes y sont désormais autorisées.
Oui, et c'est possible parce que le Conseil d'État turc a annulé une décision vieille de presque un siècle lorsqu'en 1934, le père fondateur laïque de la Turquie moderne, Mustafa Kemal, avait décidé de donner au monument le statut de musée afin de l'offrir à l'humanité, disait-il à l'époque. Un statut neutre, entre guillemets, que Sainte-Sophie vient donc de perdre aujourd'hui. Elle peut redevenir un lieu de culte et c'est très symbolique. Pour le comprendre, il faut rappeler son histoire mouvementée, construite au VIe siècle par les Byzantins. La basilique chrétienne devient mosquée en 1453 après la prise de Constantinople par les Ottomans. Elle le restera plus de 400 ans jusqu'en 1934 donc. Et en annonçant immédiatement l'ouverture de l'ex-basilique aux prières musulmanes, c'est bien avec cette grandeur ottomane historique que le président turc Recep Tayyip Erdogan veut renouer. Pour lui, c'est une victoire ce soir, puisqu'il peut ainsi flatter et remobiliser son électorat conservateur, religieux et nationaliste. Le président turc va même s'exprimer dans moins de 2 heures à la télévision turque. Ça donne une idée de l'importance du moment à ses yeux. À l'étranger, les réactions sont déjà nombreuses. L'église orthodoxe russe a regretté que l'inquiétude de millions de chrétiens n'ait pas été entendue. Alors que la ministre de la Culture grecque a évoqué une provocation envers le monde civilisé. Avant même la décision du tribunal, l'UNESCO s'était déjà, quant à elle dite, déjà préoccupée, craignant toute mesure susceptible de porter atteinte à la valeur universelle du bâtiment classé.
Jean-Jacques Héry, merci. L'Amazonie continue de brûler. La déforestation a atteint un nouveau record au premier semestre, accélération de 25% par rapport à l'an dernier, un chiffre calculé sur la base d'images prises de l'espace. Plus de 3000 km² de forêt sont partis en fumée, dont 1 000 rien qu'au mois de juin.
Ça y est, c'est le retour du foot cet été. On connaît maintenant les affiches de la phase finale de la Ligue des Champions organisée à Lisbonne au mois d'août.
Le tirage au sort a eu lieu au siège de l'UEFA ce matin. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir.
On va commencer avec le PSG qui échappe au poids lourd. C'est plutôt une bonne nouvelle. Les Parisiens affronteront en quart de finale l'Atalanta Bergame. Mais attention, méfiance quand même.
Oui, alors c'est vrai que sur le papier, c'est le tirage idéal. Mais pour 3 raisons au moins, on va se méfier. Premièrement, la valeur de cet adversaire que le PSG n'a jamais affronté, actuel 3e du championnat italien, l'Atalanta Bergame n'est pas la Juve ou Naples, mais le club lombard joue un football pétillant, efficace, les joueurs sont irrésistibles depuis la reprise en Italie, ils arriveront avec plus de matchs et plus de rythme que les Parisiens. Deuxièmement, le format de la compétition sur un aller-retour, le PSG serait largement favori. Mais là, c'est sur un seul match. Et cela égalise les chances, un peu comme en Coupe de France, où les petits sortent régulièrement les gros. Enfin, troisièmement, le passif du Paris Saint-Germain dans la compétition, qu'il ne faut pas sous-estimer. Les souvenirs des matchs impossibles à perdre, des remontadas sont encore bien présents, même si certains ont voulu voir un signe après la qualification pour les quarts de finale face à Dortmund, comme la fin d'une malédiction. On va voir ça, on va écouter. Avant cela, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, qui parle du futur adversaire.
Bergame, c'est une équipe très spectaculaire, très très fort offensivement. Ce n'est pas une équipe vraiment italienne. Ils jouent toujours pour faire beaucoup de buts. Ça va être un match très serré et très dur, mais nous sommes là pour gagner.
Jean-François, en revanche, pour Lyon, là, c'est un tirage plus compliqué.
C'est carrément le pire tirage. Dans le cas où les Lyonnais parviendraient, ce qui serait déjà un exploit, à éliminer la Juventus, dans un mois, ils seraient opposés à l'un des favoris de la compétition, Manchester City ou le Real Madrid de Zidane et Benzema. Et s'ils se qualifient pour les demi-finales, ce pourrait être le Bayern Munich ou Barcelone, autrement dit les travaux d'Hercule de Jean-Michel Aulas et de ses troupes peuvent commencer.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 en France. Le championnat ne reprendra que fin août, mais avec la fin de l'état d'urgence sanitaire, les stades rouvrent au public dans la limite de 5000 personnes, ce qui va permettre d'organiser des matchs amicaux. Première grosse affiche dimanche avec le PSG qui se déplace au Havre. Enfin, feuilleton terminé sur la relégation d'Amiens en Ligue 2. Le Conseil d'État rejette le dernier recours du club Picard.
C'était le journal de Sébastien Krebs. Merci Sébastien.
À tout à l'heure.
La météo, bien sûr, tout de suite avec Anissa. Anissa, c'est le retour du beau temps demain.
Oui, et grâce à qui, Thierry? Grâce
à l'anticyclone.
Ah, bravo, ouais. Grâce à l'anticyclone qui revient. Il revient nous protéger, il nous garantit du beau temps. Alors demain, en début de journée, sur le Pays Basque, la Haute-Garonne et les Alpes, nous aurons des petits nuages qui seront un petit peu plus présents qu'ailleurs. Dans l'après-midi, il fait beau sur tout le pays. Sur la Picardie et les Ardennes, là, quelques passages nuageux inoffensifs. Attention tout de même demain après-midi sur les reliefs corses, les reliefs des Alpes et les reliefs des Pyrénées, où demain, les nuages d'altitude pourront lâcher quelques gouttes, mais ça va vraiment se situer qu'en altitude. Le Mistral et la Tramontane souffle toujours demain après-midi. Alors côté température, ça baisse en Bretagne et en Normandie avec 5 à 8 degrés demain matin, 8 à 14 sur l'ensemble du pays et jusqu'à 22 degrés demain matin à Perpignan. Et au meilleur de la journée, nous aurons 18 à 26 degrés sur la moitié nord, 18 à Dunkerque, 21 à Lille, 24 à Vesoul, 25 à Paris et Clermont-Ferrand, 26 à 31 degrés sur la moitié sud, donc ça reste agréable pour la saison. 27 à Nice et à Lyon, 29 à Toulouse et à Ajaccio, et toujours très chaud dans l'extrême sud avec 31 degrés à Marseille, 33 à Montpellier, jusqu'à 35 hier. Juste un œil sur le radar des pluies actuellement. Oui. Des orages frappent actuellement la région Rhône-Alpes, la Drôme, l'Ardèche et l'Isère, donc soyez extrêmement prudents. Il pleut actuellement à Valence, on vous tient au courant. Les orages devraient se dissiper assez rapidement avant le début de la soirée.
Prudence donc, et on regarde la météo des plages à 18h30.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, Thierry Dagiral avec votre invité dans un instant.
Oui, ça y est, c'est peut-être les vacances pour vous. Vous restez en France et votre budget, on en parle avec Michel Durieux en charge du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, un secteur touché de plein fouet bien sûr par la crise. C'est dans 2 minutes sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous Thierry Dagiral et avec votre invité ce soir. Il était auparavant en charge du tourisme au Quai d'Orsay. Il est directeur général du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Vous recevez Michel Durieux.
Bonsoir Michel Durieux.
Bonsoir.
Ce week-end, ce sont les premiers grands départs en vacances. Il faut le rappeler, le tourisme, c'est 2 millions d'employés. Dans quel état d'esprit sont-ils ces employés, ceux que vous rencontrez sur le terrain ?
On va déjà partir d'une base un peu d'optimisme. Vous l'avez annoncé avec la météo. Grand beau, l'anticyclone est là, les touristes sont là.
Ouais.
Donc déjà, ça fait du bien. On l'attendait. Ça fait plusieurs semaines qu'on se demandait est-ce que ça va redémarrer, est-ce que ça va redémarrer. On le voit, les routes sont chargées, le soleil est là et les touristes commencent à arriver sur les destinations. Donc les employés sont à la fois inquiets et à la fois un peu rassuré de cette situation qui revient un peu vers la normale.
Il faut rappeler ce chiffre, le tourisme en France, c'est 8% du PIB, donc c'est un secteur important, oublié ou pas selon vous ?
Oui, ben, oublié, on l'a vu pendant la crise, tout le monde en parlait, des milliards qui ont été débloqués pour aider ce secteur, et il y en avait besoin, 17 milliards et surtout du chômage technique, et puis tout d'un coup, annonce du gouvernement, pas de ministre. On aurait pu imaginer un ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères pour être en charge du tourisme et avoir la force de la diplomatie du ministère des Affaires étrangères pour relancer la machine.
Mais des secrétaires d'État,
on aura un secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, certainement.
Ouais. Donc, il vous faut un ministre, mais ça, c'est une question de jour, un secrétaire d'État. De l'argent, il y en a aussi. Cette nuit, il y a eu un troisième budget de crise qui a été adopté à l'Assemblée, avec de l'argent aussi pour le tourisme.
Oui, mais il en faudra, il en faut beaucoup. Parce que globalement, le tourisme, vous l'avez dit, c'est 2 millions d'emplois. Mmh. C'est même beaucoup plus parce que ça a toujours été sous-estimé. On le voit bien. On se rappelle maintenant que l'aéronautique, les avions sont pleins de touristes. Et que c'est pour ça que Airbus, maintenant, va devoir en produire 40% de moins parce qu'il n'y a plus de touristes. Donc là, il y a des budgets. Mais les difficultés des entreprises, il faut y penser. Ça sera en septembre-octobre que les petites entreprises du tourisme, elles sont nombreuses.
C'est ça, ça c'est que les effets seront durables et étalés dans le temps. C'est ce que vous nous dites ce soir.
C'est ça, et ça va être très compliqué. Et c'est pour ça qu'il va falloir des moyens pour pouvoir les accompagner jusqu'à 2021, la saison suivante, pour qu'ils puissent récupérer de la trésorerie et des fonds propres.
Michel Durieux, la tendance de cet été, ce sont quoi? Des départs au dernier moment? C'est ça en France principalement, bien évidemment.
On le voit, les Français attendent la météo, pratiquement du vendredi soir, pour savoir ce qu'ils vont faire la semaine suivante. Donc oui, pratiquement 25% des gens attendent la semaine avant le départ pour réserver. On regarde la question sanitaire, on regarde la météo et on part au dernier moment. Ils partent en France. Très majoritairement cette année, plus de 90% des touristes français resteront en France. Donc on a cette angoisse un tout petit peu de dernière minute. Ouais. On le voit quand même, ça se remplit maintenant.
Et pour les professionnels, ça veut dire qu'ils naviguent à vue finalement?
Ah ben, totalement à vue sur l'occupation, totalement à vue sur les prix. Donc en dernière minute, on a l'habitude de prix qui baissent. Là, ils montent pour pouvoir se récupérer un tout petit peu. Donc là, il y a une mini-angoisse dans le fonctionnement. Mais enfin, on est en train de gérer cette situation et ce qui est important, c'est que les destinations se sont quand même préparées et là, on le voit, les touristes arrivent et on retrouve quand même une ambiance estivale et une ambiance de vacances et on en a tous besoin.
Michel Durieux, en réservant, est-ce qu'il y a cette crainte encore de ne pas être remboursé en cas de reconfinement, s'il y a des clusters par exemple ?
Non, les professionnels se sont engagés à essayer d'être le plus flexible possible si ça devait arriver. Je ne pense pas vraiment qu'il faut avoir cette angoisse. Là maintenant, il faut réserver, il faut partir en vacances. Profitons de ce moment un tout petit peu de répit. Ouais. Alors en même temps, il faut penser à ces Français qui ne vont pas pouvoir partir en vacances.
Bien sûr, parce que
situation économique est terrible.
C'est quoi? C'est 15 à 20% du budget des Français théoriquement qui va dans les loisirs, dans les vacances. Vous sentez
tout à fait, ça correspond à la différence du chômage technique. Hein.
Ouais. Il y a des conséquences pour vous les remarquez sur le terrain concrètement?
Ah ben, nous, on le ressent. Il y a des familles qui ne peuvent pas partir en vacances. Eurostat dit 28% normalement. On va avoir à peu près 40% cette année de personnes qui ne vont pas pouvoir partir en vacances. En Nouvelle-Aquitaine, le président Alain Rousset de la région avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne et l'État ont mis en place des chèques vacances pour aider les familles qui ont un coefficient familial entre 600 et 900 pour leur donner des chèques entre 200 et 400 euros pour pouvoir partir en vacances, parce que c'est ces familles qui vont avoir ces difficultés, c'est ces familles qui vont manquer sur nos destinations. Parce qu'habituellement, elles restent en France déjà en dehors de la crise de cette année.
Michel Durieux, la tendance, elle est aussi à des séjours plus respectueux de l'environnement, des séjours verts.
Oui, alors le prix reste quand même encore un critère très important. Après, on recherche de l'espace, on recherche de la distanciation, on recherche de la nature.
Bien sûr.
Donc là, les destinations intérieures sont en train de fonctionner. Elles sont en train de rattraper leur retard, comme en Dordogne, qui avait normalement beaucoup de touristes étrangers. Mais vous avez par exemple le Limousin avec le lac de Vassivière, où il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant, les Pyrénées. Donc toutes ces destinations intérieures qui font le plein maintenant et sur lesquelles on va avoir de nouvelles vacances, nature, et ça risque d'être une tendance pour les prochaines années.
Il faudra du coup que le secteur se remobilise, se réinvente finalement.
Il va falloir d'abord observer. Ouais. Qu'est-ce que vont vouloir les touristes dans les prochains mois, dans les prochaines années? Quelles seront les attentes? Est-ce que le prix et le divertissement vont rester encore des critères importants? Est-ce qu'on va rechercher du local, de l'expérience? C'est ce qu'on dit depuis plusieurs années. Puis ce tourisme durable. Alors dans durable, il y a environnement, mais il y a aussi modèle économique et il y a aussi le social. Donc c'est tous ces paramètres qu'il va falloir travailler et il va falloir réfléchir. Et il faut le faire pour pouvoir transformer notre tourisme et l'adapter à la demande.
Michel Durieux, directeur général du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, merci à vous. Je rappelle que vous publiez L'après-tourisme et humanité aux éditions du Cherche Midi. Grand merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1. À suivre, Thierry Dagiral.
Le rappel des titres et la météo des plages, puis les grandes voix. Ce soir, Marie-Ève Malouine et Judith Ventraub. On parle islam et avenir des Républicains dans un instant sur Europe 1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Avec le rappel des titres de Sébastien Krebs.
Le chauffeur de bus agressé à Bayonne dimanche dernier est décédé, annonce sa famille. Philippe Monguillot, 59 ans, a été roué de coups par des passagers à qui il demandait d'acheter un ticket. Une marche blanche avait rassemblé 6000 personnes cette semaine. Demain, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend sur place. La France condamnée à agir contre la pollution. Ultimatum inédit lancé par le Conseil d'État qui donne 6 mois au gouvernement pour prendre des mesures à Paris, Lyon ou encore Marseille, et cela sous peine d'une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard. On y revient à 19h. Les routes d'Île-de-France dans le rouge, près de 400 km de bouchons à 18h. Week-end de grand départ en vacances, demain c'est toute la France qui sera classée rouge. Une nouvelle expertise médicale demandée dans l'affaire Adama Traoré. En pleine bataille d'experts, ce sont cette fois des médecins belges qui sont saisis du dossier. Les soignants seront dans la rue le 14 juillet pendant que la France leur rendra hommage à la Concorde. 6 organisations syndicales de l'hôpital public appellent à manifester le jour de la fête nationale. L'épidémie de Covid continue de se propager à grande vitesse aux États-Unis. Nouveau record battu, 1000 décès en 24 heures, 65 000 nouveaux cas. Enfin, la Ligue des Champions, tirage au sort plutôt abordable, en tout cas sur le papier. Pour le PSG, en quart de finale, les Parisiens affronteront l'Atalanta Bergame. Ce sera plus corsé pour Lyon qui, s'il bat d'abord la Juventus Turin, fera ensuite face à Manchester City ou au Real Madrid.
Merci Sébastien, édition complète à 19h. La météo des plages, Anissa. On part en Méditerranée, en Corse.
Oui, effectivement, Thierry, avec du grand bleu, du grand jaune, du côté de Sète demain. C'est grand soleil avec 35 degrés sur le sable et une eau à 22. Nous aurons un léger vent du sud. Sur la Côte d'Azur, à Saint-Raphaël, c'est grand soleil. Écoutez bien, à 14h, donc vraiment au moment où le soleil est à son zénith, nous aurons plus de 40 degrés, 41 degrés demain sur la plage. En moyenne, 37 à 39 degrés et l'eau est à 25. En Corse, à Calvi, 40 degrés là aussi sur la plage en plein soleil, 24 dans l'eau. En revanche, le vent souffle avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Dans une heure, nous irons sur la côte atlantique et dans le nord.
Rendez-vous pris.
Europe 1. Et votre grand journal du soir sur Europe 1, avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous ce soir. Thierry Dagiral, Marie-Ève Malouine, éditorialiste, et Judith Vintraub, journaliste au Figaro Magazine.
Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Merci d'être présentes ce soir sur Europe 1. L'islam politique ou le caillou dans la chaussure du nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors de la passation de pouvoir, il a dit son intention de lutter contre l'islamisme politique qui attaque la République. Ce sera un combat important pour Emmanuel Macron, qui veut structurer l'islam de France, Judith Vintraub.
C'est un combat extrêmement important, d'autant qu'on attend toujours le grand discours sur la laïcité qui avait été promis par le président.
Au début, on va dire,
au début de son quinquennat, et qu'on n'a toujours pas eu. Alors certes, il a fait des déclarations contre le séparatisme islamique, ouais. C'est déjà un commencement. Et puis, je n'ai pas bien compris quelle était la position de Gérald Darmanin, qui s'était illustré en 2015,
c'est ça.
Après les attentats, en disant le problème, c'est pas l'islam, c'est la connerie. Ce que je trouve ennuyeux, parce que s'il ne commence pas par reconnaître que l'islam politique et l'islamisme sont des maladies de l'islam, ça veut dire qu'il n'a pas compris devant quoi on était. Par ailleurs, il avait fait des propositions pour un concordat pour l'islam qui n'était pas bien clair non plus. Alors, il n'est pas pro-voile. Hein. Il regrette que des femmes emportent. Ouais. Mais il dit que ce n'est pas le premier problème. Et il faut absolument adapter, alors il ne le dit pas comme ça, mais c'est comme ça que je l'entends, adapter notre République pour laquelle l'islam est une religion relativement récente, il faut l'adapter à l'islam. Or, c'est embêtant, c'est d'autant plus embêtant de la part de quelqu'un qui s'est dit hostile à la laïcité punitive, sans définir ce que c'était que la laïcité punitive.
Il faut rappeler que Gérald Darmanin est maire de Tourcoing. Il avait travaillé en effet il y a 4 ans sur le sujet. Il disait la guerre civile couve, les politiques font l'autruche. Mais maintenant, c'est à lui de jouer. Marie de Malouine.
Oui, je crois quand même qu'il a eu une phrase assez importante à l'Assemblée quand il a dit que l'islamisme politique, l'islam politique, était un ennemi mortel pour la République. Donc, il pose quand même certaines affirmations que tout le monde n'a pas eu le courage d'avoir jusqu'à présent sur l'islam politique, qui est un islam radical et qui se revendique destiné à avoir des règles, des normes supérieures à nos valeurs communes, qui sont les règles de la République. À partir de là, les déclarations qu'il a eues avant, il n'était pas en situation de ministre de l'Intérieur. Maintenant, je pense que les propos qui peuvent être interprétés, suggérés, des choses, il a besoin maintenant d'être beaucoup plus clair, puisqu'il est le ministre des Cultes. De l'autre côté, je pense qu'il faut faire une différence. Il y a l'islam politique, qui est tout à fait condamnable, parce qu'il n'est pas en adéquation avec nos règles et il veut les supplanter. Et puis il y a l'islam, qui est une religion en France, et autant il faut combattre l'islam politique,
bien sûr.
Autant je crois qu'il faut intégrer, faire valoir cette liberté individuelle, qui est le droit d'avoir sa religion à titre individuel et dans la sphère privée.
J'ai l'impression que cette question, pardonnez-moi, de l'islam de France, on en parle depuis... lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur.
Bah, bien sûr, parce que...
Et qu'on n'y arrive pas.
Parce que depuis cette époque, et bien avant cette époque, on a un phénomène, alors pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron, de séparatisme, qui ne fait que s'aggraver. Moi, je trouve que Gérald Darmanin, depuis qu'il est entré en fonction, bien qu'il y en ait effectivement que l'islam politique était l'ennemi mortel, a pas du tout clarifié sa position, d'autant plus qu'il répondait à la sénatrice du Val-d'Oise, Jacqueline Eustache-Brignaud, la veille du jour où elle allait dévoiler son rapport,
qu'on a publié, dont on va parler tout à l'heure, bien sûr, et évoquer longuement avec vous.
Dans le Figaro, et où elle dit que à peu près toute la France, sauf la Bretagne, il y a des écosystèmes islamistes qui se sont construits. Et la réponse de Gérald Darmanin, ça a été de l'accuser de tenir des propos caricaturaux. Mmh. Ça commence mal.
Comment intégrer pleinement l'islam dans la laïcité française? On en parle et on continue à en parler dans un instant avec Marie-Ève Malouine et Judith Ventroux sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous, Thierry Dagirel, Marie-Ève Malouine, éditorialiste, et Judith Vintraub, journaliste au Figaro Magazine. Et toutes vos réactions en direct au 3921 ou sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et la question pour le moment, c'est comment intégrer pleinement l'islam dans la laïcité française après les déclarations de Gérald Darmanin. Tout de suite, Sophia nous a contacté au 3921. Bonsoir Sophia.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, j'habite dans un quartier... du 93.
D'accord.
Et j'habite dans un quartier à prédominance musulmane et je me fais souvent embêter par rapport à ma tenue ou au fait que je boive de l'alcool et principalement pendant le ramadan quand je mange dans la rue. Donc la question est très simple, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de prévoir quelque chose pour protéger les gens comme moi de ce genre d'agression enfin finalement des formes d'agression.
Merci Sophia, merci. Judith Ventroux du Figaro vous répond.
C'est très compliqué et c'est indispensable de le faire. Il faut absolument protéger les non-intégristes de cette montée de l'inscription. Je ne sais pas du tout si l'auditrice qui nous appelle est musulmane ou pas. Peu importe, de toute façon, ça ne change rien au problème. Ceci étant dit, les musulmans non-intégristes sont les premières victimes, évidemment, de ces campagnes de pression des intégristes. Donc c'est eux qu'il faut protéger en premier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est évidemment sur le long terme une question d'éducation, de rigueur vis-à-vis de toutes les dérives islamistes. Mmh. De ce point de vue-là, l'arrivée de Jean-Michel Blanquer au ministre de l'Éducation a été un bienfait et une bonne nouvelle parce que lui est quand même beaucoup plus attentif, pour ne pas dire pire, que ne l'étaient ses prédécesseurs à la question. Il a monté un conseil d'échange de la laïcité, présidé par Dominique Schnapper, extrêmement vigilant et efficace, et notamment qui a permis de contrebalancer l'influence délétère de l'Observatoire de la laïcité, présidé par Jean-Louis Bianco. Dont on se demande si sa vocation n'est pas d'encourager l'islamisme.
Comment on va plus loin maintenant? Parce que visiblement, ce que vit Sophia, c'est ce que raconte d'ailleurs le rapport sénatorial.
Oui, c'est l'écosystème islamiste certains quartiers.
Comment on répond à cela? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'éducation, ça ne change rien. Ça ne fait pas bouger les choses, en tout cas.
Ça finira par changer. Pour ça, je disais, c'est le long terme.
Peut-être qu'il sera trop tard.
Oui, il sera trop tard. Pour le court terme, il faut évidemment réprimer ce genre de comportement, signaler.
Comment?
Vous savez, je n'ai pas de recette miracle.
Par exemple, dans le rapport sénatorial, on parle de mieux former les élus et fonctionnaires locaux, renforcer le maillage de l'État dans ces quartiers souvent, d'ailleurs, oubliés par la fonction publique. Qu'est-ce qu'il veut faire, Marie-Ève Malouine ?
Je crois qu'il y a des choses à faire, notamment au niveau de la formation des élus. Ouais. Et puis, les responsables politiques ont la responsabilité de nommer les choses. On a en France un tabou vis-à-vis de l'islam et on a peur de dire que l'islam politique n'est pas acceptable parce que toujours il remet en cause.
On, ça dépend qui. Hein.
Oui, non, mais bien sûr. Et Judith le dit comme je le dis, et beaucoup à gauche ont eu du mal à le dire au nom du respect des libertés de chacun. Mais ma liberté s'exerce, s'arrête quand elle enfreint la liberté des autres. Et donc, je crois qu'il faut être ferme sur ce débat et aussi donner nos valeurs. On est trop dans la prudence ou dans le tabou, ouais. Parce que les islamistes politiques en jouent et en disant « mais c'est ma liberté d'être voilée, etc. » Certes, c'est la liberté de chacun, mais les lois de la République s'imposent à tous. Et imposer à des femmes d'être voilées, jamais on ne fera croire dans une République comme la France que c'est un signe d'émancipation. Il faut être clair là-dessus et les responsables politiques doivent être clairs et les élus doivent être formés. On a eu ce débat pour les municipales où certaines listes communautaristes étaient présentées comme une liberté. Non, des listes dont le programme c'est de restreindre les libertés des femmes, des homosexuels, ce n'est pas dans le cadre de la République.
Et pas seulement ça, parce que là vous parlez des listes communautaristes en tant que telles et facilement identifiables. Mais sur certaines listes menées par des Verts, où il y avait des Verts et des éléments de la France insoumise, vous savez, qui est traversée par un clivage très grave, qui a provoqué des déchirements. Le parti de Jean-Luc Mélenchon est Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout au clair sur cette question-là. Il y a des gens qui sont partis d'ailleurs parce qu'ils considéraient qu'il il était hostile aux musulmans. Je pense par exemple à la nouvelle maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, qui est une verte, qui avait sur sa liste une femme voilée et qui en a tiré un argument de campagne.
Pourquoi et ce n'est pas uniquement les partis politiques, parce que souvenez-vous de l'affiche de la FCPE avec une jeune femme très jolie, voilée, et disant « je porte un voile ». Et alors, pour en faire un argument électoral et clientéliste, puisque ça voulait dire « voter FCPE, on tolère le voile à la FCPE », alors que ça n'a rien à voir dans le débat ou la responsabilité des associations de parents d'élèves.
Je reviens à ce rapport sénatorial. Pourquoi cette commission est réservée sur la volonté de créer un islam de France, ce que souhaite faire Emmanuel Macron et donc Gérald Darmanin, son nouveau ministre de l'Intérieur?
D'abord parce qu'il y a un précédent fâcheux, c'est celui de Nicolas Sarkozy.
Qui a voulu mais qui n'a pas pu.
Et qui a démontré à son corps défendant que quand la République voulait se mêler de structurer une religion, elle tombait sur quoi ? Sur les plus organisés. Or, qui sont les plus organisés en France en ce moment ? Ce sont les frères musulmans.
Et ça rejoint le danger du communautarisme. À partir du moment où on va traiter les musulmans comme une communauté dans laquelle on englobe et les intégristes et les musulmans qui pratiquent simplement leur religieux tranquillement chez eux, on amalgame tout le monde et donc on obtient l'inverse de ce qu'on voudrait faire. Il n'y a pas d'islam de France. Il y a des musulmans en France, et puis comme il y a des catholiques ou des agnostiques, mais il n'y a pas d'islam de France, il n'y a pas de raison d'avoir un islam de France.
Oui, le danger, je rajoute, avec les frères musulmans, c'est que, contrairement à la plupart des salafistes, je dis la plupart parce que ce n'est pas aussi net que ça, alors bien sûr, on va dire, vous caricaturez, mais la spécificité des frères musulmans, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans le séparatisme. Au contraire, ils veulent infiltrer les institutions de la République pour la changer de l'intérieur.
Ça va être mission impossible pour Gérald Darmanin, pour Emmanuel Macron. Comment on peut intégrer pleinement l'islam dans la laïcité française ?
Déjà, en faisant respecter les lois de la République, ça serait formidable. Moi, je trouve que s'il parvenait à faire ça, il pourrait s'arrêter là avec le sentiment de la mission, du devoir accompli. Il y a une interrogation, d'ailleurs, pour savoir si ce n'est pas Marlène Schiappa.
Ce sera le job de Marlène Schiappa,
illustrée.
Ministre déléguée à la citoyenneté.
Qui
a écrit d'ailleurs un livre sur la laïcité, qui a beaucoup travaillé le dossier.
Oui, qui je trouve, n'est pas ambiguë sur la question. Mmh. Elle est très claire sur la question. Et son féminisme n'a pas d'angle mort.
Ouais.
J'espère qu'elle s'en occupera aussi.
Marie-Ève Malouine, Marlène Schiappa, qui sera donc dont la mission sera celle-ci.
A priori, oui, d'après l'intitulé de son ministère, mais pour l'instant, on n'a pas les décrets d'application qui donnent le champ de compétences de la ministre. Alors, le terme est vague pour l'instant, puisqu'il y a aussi Marc Fesneau qui est chargé de la participation citoyenne. Donc, on va voir où est-ce que ça joue. Et c'est vraiment, les décrets d'application sont très importants.
Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va parler des Républicains. Est-ce qu'ils ont des idées pour la future présidentielle ? On en parle dans un instant.
Europe 1.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Autour de vous ce soir, Thierry Dagiral, Marie-Ève Malouine, éditorialiste, et Judith Vintraube, journaliste au Figaro Magazine. Toutes vos réactions, et effectivement, sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et on va parler des Républicains. Mais que font-ils, ces Républicains? Sur la table hier, un programme de 200 pages qui va être envoyé maintenant dans les fédérations avant un grand congrès en novembre prochain. Il y a des idées ou pas? Ils sont prêts ou pas?
À dire qu'ils sont... Il y a des idées, hein, mais on en connaît quelques-unes. Ils les ont déjà exposées. Dire qu'ils sont prêts, pas tout à fait, puisqu'on cherche le
déjà,
candidat pour
déjà
l'instant.
Déjà, c'est ça. Il faut
tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour incarner, ouais, pour porter les idées, c'est difficile de les faire passer. Mais il faut relever quand même que les Républicains, depuis l'arrivée de Christian Jacob, se sont mis au travail. Les militants se reparlent, les responsables se reparlent, se retrouvent. Et c'est déjà un progrès.
Mais on a le sentiment qu'il y a quand même deux lignes. Hein. On a la ligne Jacob et puis on a la ligne Pelletier. Et il n'y a pas encore de consensus au sein des Républicains, Judith Vintraube.
Moi, j'ai surtout l'impression qu'en fait, le clivage qui persiste et qu'ils n'ont pas réglé, c'est celui sur souverainisme et libéralisme. Ouais. La droite française n'a jamais brillé par son libéralisme. Mmh. Bruno Retailleau incarnait plutôt une ligne libérale. Et puis, en fait, depuis plus d'un an, je trouve qu'il a changé et qu'il s'est pas mal rallié au thème souverainiste.
Dans les idées proposées hier, il y a notamment un contre-plan de relance, un ticket carburant pour les salariés, la baisse de TVA sur 1000 produits alimentaires, l'idée d'un bouclier rural, objectif zéro fermeture d'écoles, de bureaux de poste, des contrats spécifiques pour les seniors. Il y a des choses assez intéressantes. Face à Darmanin, dont on parlait il y a un instant, les Républicains promettent un plan de réarmement régalien de 25 milliards sur 5 ans. Voilà, les idées sont sur la table. Il faut maintenant trancher. Il faut maintenant trouver en effet la bonne personne pour les porter.
Oui, et puis trouver,
trouver le
financement, accessoirement.
Et le financement.
C'est pas rien.
C'est pas inutile.
Alors, là, on retrouve les grands classiques de la droite, c'est-à-dire retarder l'âge de la retraite progressivement, augmenter le temps de travail, etc. etc. Je suis pas sûre que ça suffise complètement. Et puis l'incarnation, c'est un énorme problème. Il y a l'incarnation.
Et le processus.
Et l'espace. Et l'espace politique. Ouais. Et là, l'espace politique, pour le moment, j'ai du mal à le voir. Pour être un peu brutal, je dirais qu'un candidat de droite aura une chance si Emmanuel Macron échoue. Mmh. Sinon, je ne vois pas le chemin.
Ça dépend.
Marie-Ève Malouine.
Ça dépend, puisque là, la droite est quand même en train de construire des propositions qui, c'est vrai, ne font pas un projet. On ne voit pas encore si c'est un projet libéral, gaulliste, social, comme... se voulait plutôt une certaine tendance, plus souverainiste. Ouais. Mais il y a des mesures qui vont permettre aux Républicains, à l'Assemblée nationale, d'animer le débat en disant, voilà, on vous propose cette mesure, reprenez-la, c'est la bonne. Et d'être dans l'actualité avec des propositions et pas uniquement dans la critique. Je pense que l'espace, il peut se créer. Et c'est d'ailleurs pour ça que le candidat n'est pas encore déclaré, parce qu'il y a ce travail de créer un espace en attendant de voir ce qui va se passer avec Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron sera en capacité de se représenter, de réussir? Et on voit que là, il mise tout sur une réforme des retraites dont personne ne veut.
Mmh. Sur une demi-réforme en plus.
Et encore, on peut critiquer la réforme. Mais sur le principe, remettre la réforme des retraites, du système entier des retraites sur la table, parce qu'il craint d'arriver à la présidentielle et qu'on lui dise « vous n'avez pas été fichu de faire cette réforme », quand personne n'en veut, ça va être difficile. Et là, ça ouvrira un espace si effectivement il n'arrive pas
Marie-Ève,
à le faire.
Le dernier épisode, c'est pourquoi j'ai dit demi-réforme, parce qu'en fait, il laisse tomber sa réforme systémique. Jean Castex, ses premiers mots sur le sujet, ça a été pour dire « Oula, il n'y a pas dit oula, c'est moi qui rajoute oula ». C'est une réforme de longue haleine, comprenez, ça ne se fera pas d'ici la fin du quinquennat. En revanche, l'équilibre financier, la réforme paramétrique, ça il faut absolument la faire parce que on risque d'avoir, c'est une quasi-certitude d'ailleurs d'après le Conseil d'orientation des retraites, 30 milliards de déficit du système des retraites à la fin de l'année. Mais même cette moitié de réforme, ce quart de réforme, qui était d'ailleurs, c'est assez drôle, la partie qu'Édouard Philippe avait rajoutée à la belle réforme de système universel d'Emmanuel Macron, on aurait pu penser que Macron garderait sa réforme et jetterait celle d'Édouard Philippe. Ben non, il garde celle d'Édouard Philippe. En tout cas, il essaye et aucun syndicat, que ce soit salarié ou patronal, n'en veut.
Je reviens sur le processus un instant parce que la primaire à droite, ça n'a pas laissé de bons souvenirs et le parti est encore divisé sur cette méthode pour trouver le bon candidat.
C'est simple, il y a ceux qui ont intérêt à avoir une primaire, donc ils y sont favorables. Ouais. Ceux qui n'ont pas intérêt, donc ils y sont défavorables. Moi, je pense que la primaire, de toute façon, c'est un artifice et ça ne sert pas le candidat qui sort de la primaire. On l'a vu à chaque fois. Il est affaibli. Qui mieux que ses amis connaissent ses faiblesses ? Oui, mais ça fait des candidats qui sont affaiblis. Regardez, François Hollande, il a été affaibli par les critiques qu'il avait reçues pendant la primaire. Ségolène Royal, ça a créé de telles tensions que les éléphants du parti ne l'ont pas suivi. Et François Fillon, ça a fait qu'il était désigné, mais qu'il n'a pas été soutenu, même s'il restait candidat, parce que honnêtement, ce qui l'a handicapé, c'est aussi le fait que toute sa famille n'était pas soudée derrière lui pour dire qu'il subit un complot judiciaire.
Judith Vintraube, on va terminer avec vous. Si les Républicains proposent des mesures, celles dont je viens de parler hier, et qu'on a le sentiment qu'ils mettent un peu les bouchées doubles, c'est parce qu'il y a aussi la peur, Édouard Philippe, libre.
Non, je ne crois pas, parce qu'ils le connaissent bien. Et puis rappelez-vous, au moment de son pot de départ, Édouard Philippe a dit « je ferai tout ». Pour favoriser le succès d'Emmanuel Macron. Je le connais.
Vous le sentez
pas
mal
depuis longtemps.
Finalement, il y a un espace à droite, je peux l'incarner.
Je crois même qu'il a une trop haute idée de lui-même pour s'abîmer dans un combat avec Emmanuel Macron. Ouais. C'est au-delà de la loyauté. Mais le principal problème des Républicains, c'est plutôt que, hormis François Baroin, dont on ne sait toujours pas s'il a envie d'y aller ou pas envie d'y aller, on verra à l'automne peut-être, il a quand même deux potentiels candidats forts qui sont en dehors du parti.
Xavier Bertrand et Valérie Pécresse.
Alors comment on fait ?
On peut faire des primaires de la droite ou vers...
Oui,
mais paradoxalement, cette impatience pour que François Baroin se déclare, ça traduit aussi, d'une certaine façon, une envie d'un candidat de droite, puisqu'il y a cette impatience pour savoir qui ça va être.
Merci à vous, mesdames. Bon week-end. Merci d'être venus sur Europe 1 ce soir.
Europe 1. À suivre, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le journal de 19h de Sébastien Krebs, direction Bayonne, où le chauffeur de bus agressé est décédé ce soir.
Europe 1.